Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostadis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui consacrée au livre du père Jean Meyendorff, Le mariage dans la perspective orthodoxe, réédité en 2017 chez Apostolia. Avec des lectures tirées de son livre, mais grâce aussi à des archives exceptionnelles qui nous permettent d'entendre le père Jean parler du mariage chrétien, nous avons pu, au cours de la première émission, apprécier la manière dont celui-ci inscrit ce sacrement dans une perspective eschatologique, donc profondément théologique, en insistant sur le lien du mariage avec l'Eucharistie. Nous l'avons également entendu parler de l'évolution de la notion même du mariage entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme nous avons pu le remarquer, le père Jean Meyendorff avait une parole simple et directe qui va au cœur du sujet traité et reste très actuelle, même si l'entretien diffusé date des années 80. Cette émission commence avec un extrait de l'entretien du père Jean concernant une question délicate, celle de la sexualité.
La sexualité, les chrétiens sont responsables à un égard, c'est quand ils ont très souvent présenté la sexualité comme quelque chose de mauvais, quelque chose qui est honteux. Mais cette attitude négative à l'égard de la sexualité en tant que telle a conduit à des malentendus. La tradition chrétienne dans son ensemble considère la sexualité comme faisant partie du monde déchu dans son ensemble. Elle demande une transfiguration. De même que tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, nos relations humaines doivent être transfigurées par l'amour. Nous avons des carêmes et des périodes d'abstention pour nous inculquer l'idée que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit aussi de l'Esprit Saint. De même, la sexualité demande à être en quelque sorte limitée, canalisée, mais c'est pour le bien de l'homme. C'est une chose bien plus sérieuse, la sexualité, même que la nourriture. Elle touche à ce qu'il y a de vraiment très central dans l'homme et dans la femme. Et par conséquent, le mariage, c'est un message positif en ce qui concerne la vie humaine et les relations sexuelles. Et c'est ce message positif que nous devons communiquer. La sexualité, en dehors du mariage, indique simplement que les gens ne prennent pas la vie commune avec suffisamment de sérieux. Si un couple viendrait à moi en disant « voilà, nous faisons ça, pouvons-nous le faire ?» Je le dirais « écoutez, si vraiment vous êtes chrétien, si vous êtes baptisé, si vous preniez au sérieux votre personne, n'est-ce pas, ou vos personnes, et leur destinée ultime, eh bien, vous ne le ferez pas. » C'est ce que je leur dirais, en tout cas. Du point de vue pastoral, les chrétiens ont fait beaucoup d'erreurs, comme ça, en adoptant une attitude seulement négative, n'est-ce pas, en menaçant les gens d'enfer, n'est-ce pas. Mais les gens doivent aimer Dieu et le Christ, pas parce qu'ils ont peur de l'enfer. C'est un amour positif auquel ils sont appelés. Et c'est un fait que le Seigneur, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été assez, en quelque sorte, tolérant à l'égard de ces péchés d'ordre sexuel. Non pas qu'il disait que ce ne sont pas des péchés, il n'a jamais dit ça. Il a dit, mais la femme adultère qui est venue la voir, ben, il a dit, bon, ben, vous savez, cette histoire dans l'évangile de Saint Jean, il dit, va et ne pêche plus, n'est-ce pas? Et le Seigneur, d'autre part, s'est mis en colère à l'égard des pharisiens et des hypocrites, n'est-ce pas? Mais ceci dit, je veux dire qu'il y a des péchés plus sérieux que ces péchés-là, vous comprenez? Il y a des péchés plus sérieux. Mais pour un chrétien qui prend son baptême et sa participation à l'Église d'une façon sérieuse, bien, les questions ne devraient pas se poser. Alors le tout, c'est d'essayer de faire des chrétiens. C'est ça l'essentiel. Il faut commencer par le bon bout. Il faut surtout communiquer aux jeunes gens et aux vieux, aussi bien qu'aux jeunes, que la sexualité est une chose sérieuse, n'est-ce pas? C'est pas un jeu, n'est-ce pas? Bon, on ne fait pas des petits essais, n'est-ce pas, de ceci ou cela, parce que ça demande, il implique l'amour et un engagement.
Voilà ce que disait le père Jean Meyendorff dans les années 80 à propos de la sexualité. Et je vous propose de passer sans transition à un autre sujet d'une grande actualité aussi, à savoir les questions de bioéthique, avec, une fois encore, des réponses toujours actuelles, parce qu'elles reposent sur des fondements théologiques, dans un domaine où l'évolution scientifique a fait des pas gigantesques et certainement insoupçonnables à l'époque où cet entretien a été enregistré. Deux exemples donc en bioéthique, et tout d'abord la limitation des naissances, c'est-à-dire la question de la contraception, qui était à l'époque au centre des débats éthiques, surtout après l'encyclique Humanae Vitae, promulguée par le pape Paul VI en 1968.
En ce qui concerne l'immédiation des naissances, c'est un fait que, depuis que l'humanité existe, il y a certainement des moyens de limiter les naissances. L'Église n'a jamais, par exemple, découragé les gens, par exemple, de limiter les naissances par l'abstention, n'est-ce pas? C'est une limitation des naissances aussi. Le problème qui se pose actuellement, d'une façon directe, c'est la distinction qui a été établie au sein de l'Église catholique romaine entre ce qu'on appelle les méthodes naturelles et les méthodes non naturelles. Eh bien, je crois, au sein de la tradition orthodoxe, cette distinction est très difficile à établir. Parce que qu'est-ce qui est naturel? Prendre un cachet d'aspirine, est-ce que c'est aussi, ça peut être considéré comme non naturel? La médecine, la chirurgie, pas tout ça, c'est pas naturel. C'est des moyens que la science découvre pour donner à l'homme la possibilité de contrôler et d'être en charge de son corps, n'est-ce pas? Alors, la distinction véritable n'est pas entre les méthodes naturelles qui seraient permises, et les méthodes non naturelles qui ne le sont pas. C'est un problème très personnel. L'Église dit d'une part positivement qu'il est bien d'avoir des enfants, qu'il n'est pas naturel précisément pour un couple de s'unir en excluant totalement les enfants. C'est pas naturel. Mais que d'autre part, une certaine rationalité est légitime dans ce domaine. Alors je crois que au sein de l'orthodoxie, je crois que l'on peut dire que, finalement, ces problèmes doivent être résolus par des chrétiens adultes, aussi en consultation, peut-être avec leur père spirituel. Mais on ne peut pas résoudre ce problème de limitation des naissances simplement d'une façon formelle. Par conséquent, voilà, je crois qu'en ce qui concerne la limitation des naissances, c'est un problème d'avoir des chrétiens adultes. Et puis, il y a certains moyens qui sont peut-être très mauvais pour certains et accessibles pour d'autres.
Et maintenant, le deuxième extrait consacré à un problème de bioéthique. Il concerne la nécessité d'une écoute mutuelle entre la science et la théologie, à propos justement des progrès scientifiques spectaculaires enregistrés en la matière.
La science et les techniques modernes sont évidemment parfois effrayantes parce qu'on se demande où elles vont mener. C'est un fait, n'est-ce pas, que nous sommes à l'entrée d'une époque où il sera scientifiquement possible de manipuler la vie humaine. Il paraît-il, dans un laboratoire en Californie, on a déjà fabriqué un super rat. Le rat est énorme, n'est-ce pas? Alors potentiellement, dans l'avenir, il est possible qu'on arrive à bâtir un super-homme. Et là, les perspectives sont vraiment horribles et extrêmement dangereuses si on exclut tout le domaine spirituel, n'est-ce pas, la nature spirituelle de l'homme, etc. Cela pour dire que ces manipulations génétiques sont dangereuses. Elles demandent vraiment une attitude compétente de la part des chrétiens. Le malheur, c'est que les scientifiques ne savent rien de la religion et de la théologie, et les théologiens, très souvent, savent très peu, en quelque sorte, des problèmes de la technologie moderne. Alors le dialogue dans ce domaine doit être établi, et c'est quelque chose dans laquelle nous sommes très faibles. Concrètement, à mon avis, par exemple, un couple qui est stérile et qui ne peut pas avoir d'enfants, à mon avis, s'il y a un moyen artificiel où la femme peut être fécondée par le sémen de son mari, dans ce cas-là, à mon avis, le problème est difficile, si vous voulez, mais c'est une manière de faciliter la naissance d'un enfant dans une famille stérile, n'est-ce pas? Mais du point de vue chrétien, la participation d'un tiers, n'est-ce pas, doit être exclue. Les mères porteuses, impossible. Ou alors les inséminations officielles par le sémen d'un tiers. Alors là, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, du point de vue chrétien, même un mariage stérile, évidemment, n'est pas une tragédie ultime, ni un échec, n'est-ce pas? C'est une volonté de Dieu que nous devons accepter. D'ailleurs, et puis on peut adopter des enfants, par exemple. Je sais, par exemple, aux États-Unis, nous avons un service orthodoxe d'adoption, n'est-ce pas? Des enfants prêts pour l'adoption soient placés dans des familles orthodoxes.
Et maintenant, une pause avec la prière recommandée par le Christ lui-même, le Notre Père, que chante ici l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Nana Peradze.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Lana Peradze chantait une très belle version du Notre Père. Nous passons maintenant à la dernière partie de ces émissions consacrées au mariage dans la perspective orthodoxe, émission qui constitue aussi un hommage à l'auteur de ce livre, le Père Jean Meyendorff. Écoutons-le maintenant parler d'un autre sujet intéressant, souvent discuté au sein de l'Église, celui du mariage des prêtres.
L'Église d'Orient a toujours admis l'ordination des hommes mariés à la patrie. Et il y a des canons même qui placent des sanctions, le Concile de Gangres, contre ceux qui considéraient que les sacrements célébrés par des prêtres mariés ne sont pas valides, etc. À mon avis, c'est un problème tout à fait naturel. Un prêtre est appelé à certaines fonctions dans l'Église. Un prêtre fait partie du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il est laïque aussi, n'est-ce pas? Et en recevant cette ordination sacerdotale pour une certaine fonction, pour guider le peuple de Dieu, les conditions, n'est-ce pas, morales qui s'imposent à lui sont celles qui sont valides pour le peuple de Dieu dans son ensemble, n'est-ce pas? Par conséquent, je crois qu'il est naturel que des hommes mariés soient donc admis à la prêtrise, à mon avis. Moi, je crois que l'Église orthodoxe a raison. Le prêtre lui-même, comme un homme de famille, a une certaine expérience de la vie qu'un célibataire peut ne pas avoir, et que la femme du prêtre peut être une source de sagesse et d'expérience qui sont valables, n'est-ce pas? Quelquefois, ça ne se passe pas comme ça, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas de cette façon. L'ordination implique une maturité de la personne. Un homme qui cherche une femme, n'est-ce pas, est par définition instable. Sa vie n'est pas encore formée, n'est-ce pas? Un homme marié, c'est pour de bon, et voilà, il a une certaine maturité, qui est la raison pour laquelle l'Église impose cette condition, qui est, à mon avis, d'ordre disciplinaire et non pas sacramentel. Par exemple, le remariage des prêtres veufs, c'est un point qui s'est posé dans certaines églises orthodoxes, et parce que, finalement, il y a des drames personnels. Enfin, par exemple, dans les cas où il y a un veuvage à un âge assez jeune, il y a un problème là. Mais là, je crois, il y a une question de théologie, parce que, non pas qu'il ne peut pas être le mari, il ne peut pas être marié après une ordination, mais le fait qu'il sera marié deux fois, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Alors, à mon avis, c'est une question d'interprétation de ces règles canoniques. L'ordination après le mariage est une question de bon ordre pastoral, n'est-ce pas? La question du remariage des prêtres veufs est une question d'un autre niveau.
Et après avoir entendu la voix du père Jean Meyendorff sur la question du mariage ou du célibat des prêtres, je voudrais vous donner lecture d'un extrait du chapitre intitulé « Mariage, célibat et vie monastique », où l'auteur fait un parallèle a priori étonnant entre ces deux voies du cheminement chrétien que sont le mariage et le monachisme. Un des paradoxes de la morale chrétienne est que le mariage et le célibat, s'ils supposent des comportements pratiques différents, prennent appui sur la même théologie du royaume de Dieu et de ce fait sur la même spiritualité. Le mariage est un sacrement, car par lui le futur royaume de Dieu, les noces de l'agneau, la pleine union du Christ et de l'Église sont anticipées et représentées. Un mariage chrétien trouve sa signification ultime, non pas dans la satisfaction charnelle, la stabilité sociale ou un moyen d'assurer sa postérité, mais dans l'eschaton, les choses dernières que le Seigneur prépare pour ses élus. Or, le célibat, et en particulier la vie monastique, est justifié dans les Saintes Écritures et les traditions par la même référence au royaume futur. Le Seigneur lui-même a dit « Car, lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. » Marc 12, 25. Ce passage n'entend pas nier le mariage chrétien comme une réalité continuée dans le royaume futur, mais que le Seigneur y affirme le caractère temporel de la chair. Ainsi, le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, fait l'éloge du célibat en tant qu'anticipation de la vie angélique. La grande figure de Saint Jean le Baptiste, celle de Saint Paul et des 144 milliers de l'Apocalypse, ont servi de modèle aux innombrables saints chrétiens qui ont gardé la virginité pour la gloire de Dieu. C'est pour réagir contre le relâchement sexuel qui prévalait dans le monde païen et également pour exprimer le sens chrétien primitif du détachement à l'égard du monde que les appels à la virginité sont très nombreux dans les écrits des pères de l'Église. Le monachisme est apparu à beaucoup comme la solution la plus sûre et la plus élevée des problèmes moraux. En dépit de cette prédominance de l'esprit monastique qui s'exprime également dans l'instauration d'un épiscopat non marié, l'Église a aussi maintenu de façon intransigeante la valeur positive du mariage. Aussi, mariage et célibat sont deux manières de vivre l'Évangile en anticipant le royaume, royaume qui a déjà été révélé dans le Christ et qui doit apparaître dans sa force au dernier jour. Évidemment, seul un mariage en Christ, scellé par l'Eucharistie, et un célibat au nom de Jésus-Christ, porte cette signification chrétienne eschatologique. Ni un mariage conclu au hasard, comme un contrat temporaire, ni la pratique sexuelle dite libre, ni d'ailleurs un célibat accepté par inertie, ou pire, par égoïsme et irresponsabilité autoprotectrice, n'ont la valeur spirituelle décrite plus haut. Et maintenant, un dernier passage, une lecture tirée de ce livre, ce merveilleux livre, « Le mariage dans la perspective orthodoxe » du père Jean Meyendorff. En reconnaissant dans le mariage un mystère du royaume de Dieu, l'Évangile et l'Église ne proclament pas une sorte de réalité mystique, détachée de ce que l'homme est réellement. La foi chrétienne n'est pas seulement la vérité au sujet de Dieu et de son royaume, c'est également la vérité au sujet de l'homme. La doctrine chrétienne du mariage est, en fait, une responsabilité pleine de joie. Le mariage donne une satisfaction légitime à l'âme et au corps. Il montre ce que veut dire être véritablement homme. Il accorde à l'homme la joie ineffable de donner la vie à l'image de son Créateur qui donna la vie au premier homme. Et voici maintenant le dernier extrait de l'entretien accordé par le père Jean en 1986 peut-être sur le lien entre le mariage et l'Eucharistie.
Je crois qu'il serait important de rétablir dans l'Église actuelle le lien qui existe dans la liturgie même entre le mariage, la cérémonie du mariage, le sacrement du mariage et l'Eucharistie. Le fait que les deux sont très souvent séparés maintenant, dissociés plutôt, empêche de donner au mariage le sérieux qu'il requiert. C'est une question assez difficile dans la pratique, mais il faudrait le faire sur le plan pastoral, etc. Essayer de voir que le mariage pour un couple chrétien est quelque chose qui est central dans leur vie de chrétien dans l'avenir. C'est là la liaison, en quelque sorte. L'Eucharistie est notre participation dans le corps de l'Église, dans le corps du Christ, qui est le centre de la vie spirituelle du chrétien orthodoxe, certainement, et que le mariage est lié avec cela. Par exemple, le cas des mariages mixtes, par exemple, qui est un drame qui est très fréquent, évidemment, il n'y a pas d'union sacramentelle, par conséquent, il y a une certaine déficience dans le mariage lui-même, n'est-ce pas ? L'Église, évidemment, la pratique, c'est même Saint Paul, n'est-ce pas, recommandé, dans les cas des mariages où l'un des conjoints était païen, même. Alors là, évidemment, quand les mariages mixtes, maintenant, ce sont des mariages entre chrétiens, c'est quand même un peu plus facile, etc. Mais quand même, le lien avec l'Eucharistie indique le problème. Dans mon livre, je recommande précisément à l'Église de le faire. Nous le faisons quelquefois aux États-Unis, d'ailleurs, aussi. Ça s'intègre bien. Mais la difficulté, c'est seulement le côté social, vous comprenez. Il y a tous les gens qui sont invités, l'élément social du mariage, n'est-ce pas, qui est en quelque sorte serait un peu plus difficile à réaliser. Ou alors l'Eucharistie serait un peu profanée si on l'a fait un peu trop cavalièrement. Alors là, ce serait dommage.
Qui avez été baptisé en Christ, vous avez
Christ. C'était donc le dernier extrait de cet entretien qu'avait accordé le père Jean Meyendorff dans les années 1986, peut-être, au père Stéphane, alors producteur de cette émission sur le mariage. Pour terminer, je vous invite à lire ce merveilleux livre sur le sens du mariage, donc, que le père Jean nous a légué. Et bien sûr, tous ces renseignements pourraient être consultés sur le site de notre émission. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Emmanuel Armingue. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.